Bon, merci pour cette invitation et cette introduction. Peut-être que je rajouterai quand même un mot sur les parents des Léa, parce que les histoires se perdent. Il faut quand même rappeler que les Léa ne sont pas venues de propositions d'individus, mais il y a une commission qui avait travaillé quand l'INRP avait été dissoute. Dans cette commission, elle était largement ouverte. Je rappelle qu'il y avait Gérard Sansévi, par exemple, il y avait Jean-François Pinton, il y avait... Nicolas Balachev, et c'est de cette réflexion collective donc, qui a associé largement l'INRP défunt et les équipes de recherche extérieures, c'est de cette réflexion collective qu'est née la proposition des Léa. C'est important parce que les conditions de naissance aussi donnent des indications sur un avenir possible. De la même façon, on a eu une introduction de Catherine Perrotin pour l'IFE et de Brigitte Darchy-Coquelin pour la DGESCO, le DRDIE. Il aurait été naturel aussi d'avoir une intervention de l'aspect du côté recherche du ministère, de la DGRI, parce qu'il y a là une question de production de ressources, on va en parler, mais c'est totalement lié aux questions de recherche. Et là aussi, ce qui accompagne le développement d'un réseau conditionne l'évolution de ce réseau. Et j'espère qu'on pourra avoir dans le développement des Léa un accompagnement enseignement et aussi un accompagnement recherche du point de vue du ministère. Alors, on va vous parler là aujourd'hui de questions qui sont des questions très larges, ressources, travail réflexif et collectif des enseignants avec un point de vue un peu distancié, un point de vue international. Et je bénéficierai pour cela des séjours que j'ai pu faire parce que je suis en congé sabbatique. Et c'est très bien d'être en congé sabbatique quand on est... à l'université, ce qui m'a permis de passer en janvier, de faire un séjour à Shanghai, et ensuite en février et mars au Brésil, et de rencontrer des expériences tout à fait intéressantes, et d'avoir le privilège de continuer à travailler ensuite pendant 3 ans avec 2 étudiantes qui sont arrivées, qui vont faire leur thèse ici. Alors c'est un peu un challenge pour elles d'intervenir, elles sont que depuis 2 mois à Lyon, mais en même temps ça permet une prise de contact d'elles avec vous et de vous avec elles, avec leur projet. Alors, oui, elles viennent donc l'une de Shanghai et l'autre du Brésil, Mato Grosso do Sul. Et depuis 2 mois, et c'est un lien direct avec ce dont on discute aujourd'hui, elles ont été immergées. Là, c'est la carte des Léa qu'Émilie Carozin vous présentera aujourd'hui. Et dans un Léa, qui est le collège Ampère à Lyon, et leur contact avec l'éducation en France s'est fait par ce Léa. Et donc, on remercie Sophie Roubin. Au passage qui est là, qui a bien voulu les accueillir. Donc c'est aujourd'hui aussi, elles rencontrent le réseau qu'elles ont découvert à travers l'une de ces instanciations. Alors pour préparer cette conférence, on aurait pu interroger tout le monde, tous les Léa, ça aurait pris du temps, mais ça aurait été sûrement intéressant. On a simplement interrogé Réjeanne et Aristide en leur demandant quelles sont les questions qu'il faudrait traiter aujourd'hui, parce que recherche... enseignement, ressources, c'est large. Alors, on a eu plein de réponses, vous voyez, qui sont très larges. Qu'est-ce qu'une ressource? Faut-il produire des ressources ou s'intéresser à leur diffusion? Quelles sont les ressources que les enseignants utilisent effectivement? Les questions de qualité des ressources? Quels apports des différents membres? Un label possible? Alors, on a commencé par... n'essayez pas de toutes les lire, il y a trop de choses. On a essayé de les réduire d'abord. Qu'est-ce qu'une ressource? Utilisation, diffusion. Question de qualité, de cohérence. Des ressources émancipatrices. Qu'est-ce que c'est? Un label Léa pour les ressources. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Et puis on a encore réduit en disant quelles sont les questions qu'on va regarder aujourd'hui. Les ressources pour l'enseignement. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qu'on peut dire des interactions chercheurs-professeurs? Et qu'est-ce qu'on peut dire des aspects collectifs de la création des ressources? Et en fait, vous allez voir qu'on... On ne va pas répondre, on va évidemment poser d'autres questions et donner quelques éclairages. Et ce qu'on vous propose, c'est de faire ça. D'abord, quelques éléments voyage au cœur des ressources pour enseigner. On s'est demandé, dans les 3 contextes, qu'est-ce qu'on peut dire, dans quel lieu il y a de la collaboration enseignant-chercheur, quels sont les lieux où on voit bien le caractère collectif du travail des enseignants, est-ce qu'il y a des invariants critiques à travers cette diversité, et puis finalement, quel sujet de recherche, quels moyens d'action pour les Léa, pour les temps qui viennent. Bon, alors, d'abord, je vous propose de commencer ce voyage par un petit voyage linguistique en profitant des rencontres que j'ai pu avoir avec des étudiants avec qui j'ai travaillé un certain temps. Les ressources, finalement, par quel mot on en parle? Alors, en français, en anglais, c'est maintenant usuel de parler de ressources, mais il y a quand même derrière une idée très forte de « et ressources » qui ressource le travail des enseignants. En espagnol et portugais, ce n'est pas tout à fait pareil, puisqu'on va parler de « recursos », donc quelque chose qui est un recours. Il n'y a pas la même idée de ressourcement de l'activité. En arabe, deux mots. Un premier mot qui représente les références, c'est-à-dire les ressources de référence, ce qui est fondamental. Les grands auteurs, les manuels essentiels. Et puis un autre mot qui représente ce qu'on va vraiment travailler, le résultat de notre travail. En chinois, le rassemblement de deux caractères qui traduisent les idées de propriété, de conditions d'existence, de cause, d'origine. Et en sénégalais, le mot « sax » qui veut dire aussi « grenier ». Alors en disant ça, je suis conscient de la limitation parce que c'est les mots que nous, on va utiliser. Le collègue sénégalais dit qu'en général, quand il parle de ressources, même dans leur langue, ils disent « ressources ». Ou parfois, quand ils parlent de ressources avec quelque chose voulant marquer une forte institutionnalisation, ils vont employer un mot arabe lié à ce que le Coran donne comme cadre général de pensée. Et que parfois, ils vont utiliser ce mot, quand c'est un mot de leur propre langue, pour représenter quelque chose qu'ils utilisent vraiment, qui est à eux, ils vont utiliser le mot de grenier. C'est d'ailleurs un problème quand on a fait des interviews en Chine, par exemple, quel mot on va utiliser ? Parce que suivant le mot qu'on utilise, on préstructure un peu ce que la personne va répondre. On va dire les choses pour enseigner. Et les mots qu'utilisent les enseignants sont aussi liés aux communautés dans lesquelles ils travaillent. Et on sait que le fait qu'une communauté existe, c'est aussi que des mots sont créés pour représenter ce qu'on fait. Donc vous voyez, ce survol des mots ressources, c'est un survol un peu général pour montrer cette diversité des choses. Et quand on rentre dans, finalement, qu'est-ce que les gens utilisent, qu'est-ce qui est important pour eux, on va trouver des choses extrêmement différentes. Là, si la vidéo veut bien marcher, je vais vous montrer un petit exemple en Chine. Voilà une vidéo d'une ressource qui est assez importante dans les cours chinois. Alors c'est une ressource importante pour le professeur qui intervient en milieu de matinée quand les élèves sont fatigués, moment de relaxation qui ressemble un peu à une gymnastique mentale où on entend au fond 1, 2, 3, 4, 1, 1, 3, 4. Moment important où un élève, vous voyez la jeune fille qui est en rouge régule, on regarde ce qui se passe, le professeur passe dans les rangées. Voilà une ressource importante qui n'est pas une ressource disciplinaire, on peut dire, mais qui est au cœur de la culture de travail, qui peut être intensif avec des moments de relaxation faits pour se remémorer ce qu'on a fait pendant le cours précédent et préparer le cours qui arrive. Sur le caractère ensuite de qu'est-ce qu'une ressource, comment ça marche et qui connaît les ressources qu'on utilise. Alors on en parlera tout à l'heure, voilà une autre petite vidéo qui se passe cette fois-ci au Brésil, où deux chercheurs vont parler avec deux enseignants. On a vu comment cette modalité de deux chercheurs qui parlent deux enseignants est très très intéressante, parce qu'il n'y a pas l'aspect frontal qu'on a dans d'autres interviews. Et on demande à un professeur, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont tes ressources, les dessiner, en faire une représentation un peu structurée en fonction de tes activités. Et vous allez voir que au premier plan, on a les deux professeurs qui travaillent ensemble. Et comment la connaissance qu'un professeur a de ses ressources est complétée par la connaissance que l'autre professeur a des ressources du premier. Vous allez voir son collègue dit « Ah mais non, mais tu oublies ça, tu sais, on l'a fait ensemble, tu sais, tu m'as parlé de ça. » Et bon, juste une petite illustration pour montrer comment, quand on rentre dans l'analyse des ressources des enseignants, on voit combien celles-ci sont les ressources de l'enseignant en propre, mais en fait, pour une large partie, partagées. et que la connaissance qu'il a de ses propres sources est complétée de la connaissance que les autres ont de ses ressources. Voilà cet entrelacement qui est au cœur de l'enseignement. Et puis, une grande variété de ressources pour continuer sur ce professeur. Il y a les manuels scolaires, on en reparlera, toutes les ressources qui sont accompagnées de modes d'utilisation qui sont dans son ordinateur, une grande variété d'objets, d'objets liés à des situations. Il nous montre comme ça comment ils utilisent des sortes de balles en tissu et des grandes poubelles qui leur servent à la fois pour faire des expérimentations sur les trajectoires et sur la statistique. Et puis, il y a un moment tout à fait extraordinaire où un étudiant brésilien qui nous accompagnait était un ancien élève de ce professeur. Et il lui dit, mais quand même, soit tu as beaucoup changé, soit alors tu ne parles pas de ce que tu faisais avec nous. Et le professeur répond, ah oui, ça je le faisais, mais je ne le fais plus. Ah oui, mais ça je le faisais et je le fais toujours, mais c'est tellement important, tu vois que je ne le vois plus. Donc, vous voyez, pour savoir décrire les ressources des enseignants, tout ce qui est nécessaire et derrière une image, il y en a une autre. Et on voit bien que derrière toutes ces images, il y a des choses qu'on ne peut pas voir. Mais toutes ces interactions du professeur avec ses collègues et du professeur avec ses élèves et avec d'autres acteurs qui permettent de comprendre la matière de son enseignement. Alors, on va passer à deux illustrations, une sur le Brésil et l'autre sur la Chine. Et pour le Brésil, je donne la parole à Katiane.
Bonjour. C'est moi, la brésilienne. Peut-être un doute. Alors, je voudrais donner deux éclairages du Brésil sur les ressources des enseignants et le travail collectif. Entre les ressources des enseignants, nous pensons que les manuels scolaires ils jouent un rôle très important, très particulier dans le travail du professeur. Et au Brésil, le processus de choix et de conception du manuel scolaire il est très différent de la France. Là-bas, les éditeurs conçoivent les manuels en respectant certains critères. Puis, ils les envoient à une structure d'évaluation en grille d'évaluation qui s'appelle PNLD, Programme National de Livres Didactiques, parce qu'au Brésil, les manuels scolaires, nous allons appeler des livres didactiques. Dans le PNLD, il y a un groupe formé pour chercheurs, les enseignants et les responsables institutionnels qui va analyser chaque manuel sur les plans mathématiques, pédagogiques et aussi sur les plans éthiques. Après cette analyse, ils vont faire un guide où ils vont mettre les choses plus importantes dans ce guide. Ils vont faire la liste des manuels qui ont été acceptés pour le programme. Et cette liste de manuels, elle va être envoyée pour l'école publique, pour que l'école publique va choisir les manuels scolaires. Et les professeurs peuvent utiliser cette guide pour choisir les manuels. Dans le guide, il y a les informations sur chaque manuel scolaire. Le groupe va donner quelques informations sur les points forts et les points faibles des manuels, et aussi quelques conseils sur les méthodologies, par exemple, comment le professeur peut utiliser les manuels, comment il peut compléter son travail. Et ce programme, c'est très important au Brésil, qui est le pays qui achète les plus grandes quantités de livres dans le monde. Le premier guide a été créé en 1994, et dans l'année dernière, il commence aussi à analyser les ressources numériques. Bon, cependant, il y a très peu de recherches. Et alors, nous avons beaucoup de questions. Par exemple, est-ce que les professeurs connaissent les guides de PNLD? Si oui, comment les professeurs utilisent les guides pour choisir et utiliser les manuels? Aussi, comment les PNLD prennent en compte l'usage réel de ces manuels. Et aussi, si la discussion qui sont dans les guides alimente la discussion entre les professeurs brésiliens. Une chose que nous savons avant, c'est que pour faire la discussion, les professeurs ont besoin du temps. Et ça, c'est une question très délicate au Brésil, parce que les professeurs travaillent la plupart en deux ou trois écoles par jour. Et parfois, il y a beaucoup de professeurs qui travaillent plus que 50 heures par semaine. Mais maintenant, oui, je fais ça. Et il y a un propose au Brésil qui s'appelle École intégrale, où les élèves vont rester pendant toute la journée dans l'école, et les professeurs aussi. Les élèves vont faire des activités pédagogiques, sportives et culturelles. Et les professeurs, il y a plus de temps pour faire, pour préparer sa classe. Alors, il y a aussi un encouragement pour le travail collectif des professeurs. Bon, comme la proposition est très récente, nous avons quelques questions aussi sur la proposition. Par exemple, est-ce que les professeurs connaissent... Par exemple, les enseignants, ils travaillent collectif. Quels sont les effets du travail collectif des enseignants? Aussi, ils ont plus de temps pour préparer. Comment ils font ça? Aussi, dans l'école intégrale, il y a une manière différente de conduire la classe. À chaque classe, il y a deux professeurs. Un professeur qui va donner la... un professeur qui va donner la géométrie et autre professeur qui va donner l'algébrique. Et nous voulons savoir plus sur le partage des classes aussi. Alors nous allons en parceria avec le Brésil. Nous allons rester plus en France, mais nous voulons savoir plus sur les contrastes entre le Brésil et la France. Où le Brésil, il y a une équipe qui va évaluer les manuels. Par contre, en France, il y a les professeurs, par exemple, dans les CESAMAT, qui vont faire les manuels scolaires. Alors, nous voulons savoir plus sur ces contrastes. Et aussi sur le travail collectif qui est encouragé dans les A en France et dans l'école intégrale au Brésil. Bon, c'est ça. Merci pour votre attention. C'est pas assez.
Merci. Vous pourrez discuter avec Katiane pendant la discussion et puis aussi pendant la journée. Alors, je passe la parole maintenant à Chong Yang, qui a hésité entre le chinois et l'anglais. Finalement, on va choisir l'anglais. Brigitte, tu traduis?
Tu peux faire. Tu viens ici?
Moi, je traduis.
Oui. Tu peux venir? Elle vient ici? C'est bien, non? Ok. Je vais là-bas.
Good morning, everyone. I'm Chongyang Wang. I come from China, Shanghai. And here I will introduce you something about teachers' collective work in China and also their teaching resource during this collective work.
Yes, of course.
The teaching research group, the TRG in China is a widely used organization in which all the teachers, they work together to fight for a professional problem, something related to their daily teaching. For example, how to introduce the algebra to make the students understand this better. This can be a question arose from their daily teaching. And then the teachers in TRG will discuss for making a complete research proposal, including proposing a hypothesis, choosing a method to collect and analyze the data, drawing a conclusion and verifying the hypothesis and to see whether it works or not.
OK. Donc, je vais vous traduire en vraiment succinctement. Hein. Donc, en fait, ce que Chang... je ne sais pas son nom. Dis-moi. Chongyang vient de nous décrire une organisation qui est très largement répandue en Chine, hein, l'acronyme TRG, donc T-R-G pour groupe de recherche sur l'enseignement. Et donc c'est vraiment un collectif de professeurs qui travaillent ensemble, hein, sur une question professionnelle qui émane vraiment de leur pratique ordinaire. Donc elle donne un exemple ici qui est comment rendre l'algèbre plus compréhensible. Et donc, une fois qu'ils ont décidé de s'emparer d'une question, ils élaborent le projet de recherche avec toutes ces étapes habituelles, hein, que vous connaissez parfaitement. Et donc, dans ce processus, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le professeur assume deux rôles. Il est professeur, mais aussi chercheur. Et ça pose un tas de questions. Et ça, ce qui me paraît intéressant de retenir, c'est effectivement comment les professeurs arrivent à combiner ces deux rôles. Est-ce qu'il faut un type de compétences particulières pour les combiner? Et est-ce que les professeurs qui sont plus experts performe mieux, finalement, in fine. Voilà, c'est l'essentiel. La question. Oh, sorry. Pardon.
It doesn't matter.
J'ai pas écouté. Je crois qu'elle a fini sa diapo. Hein?
This is a whole process of the teaching project. And we can see that in this process, a teacher plays two roles at the same time. She is a teacher and also she is a researcher. Oui. But how does a teacher combine these two roles at the same time? Is there any requirements for the teachers to have some expertise competence? And can all the teachers hold or master these two roles well, or only the expert teachers can perform better than the novice teachers? So with these questions, now I will show you something about a very specific activity of TRG, the open class. And the detail, to see the details of teachers' collective work with resource.
Donc en fait, Luc avait sans doute compris que vous ne saviez pas lire le français. C'est pourquoi il m'a demandé d'oraliser ce qui est déjà écrit en français. Donc je vais arrêter ma traduction là et vous laisser lire.
So you can go on because it's written in French. I don't need to translate it. Okay, thank you.
The seminar lesson is a typical activity of open class. Taking the research question we mentioned just now, how to introduce the algebra to make it more understandable for the students, and with this question. The teacher self-recommend or appointed by the TRG, she will make a design of the lesson first, and then she carried it out in front of her colleagues. And after this lesson, there will be a seminar. There will be a seminar for this lesson. The teacher will first make a report or a self-evaluation first. And also she can post any questions about her class or her puzzles. And then her colleagues will make some comments and suggestions to this lesson, or just respond to her questions, or share their experience and puzzles. So after this seminar, based on the reflections of the other teachers' suggestions, comments, and experience, the teacher can revise her lesson plan and then carry it out again. So here comes another circle. There is no end until they think, okay, c'est bon. This is good enough.
It's good.
Good.
So, this is good enough, then they stop. So the whole process is similar like the process of sharpen a knife in China, to sharpen a knife in China. So we also call it 磨刻 in Chinese. 磨 means sharpen.
Donc l'affûtage de couteau, en fait, qui se dit 磨刻 en chinois. 磨刻 est donc presque comme MOOC.
Exactly.
Without a letter O. Oui. Now, seeing from the graph and the pictures, we can see that all the members in this collective work, they have their own roles and jobs, no matter for the teacher who gives the lesson and the teacher who observes and gives comments. They have their own jobs. But for each teacher, what benefits will they get during this collective work? And also for the resource, what will be changed? What happens to this resource? And what will be changed? What will be generated during this collective work? I think these questions is very significant for developing teachers' teaching expertise. So these are also the research interest of my PhD study. And Leia is composed by both teachers and the researchers. But the TRG in China, most of the TRG mainly composed by teachers, but the teachers place both the teacher and researcher, they place the two roles. It is a bit different, but I think it is very interesting to make a comparative study between China and France. So that's all, thank you.
Okay.
Bon, merci Brigitte pour la traduction.
Bon, on pourra discuter ensuite de ces choses-là. Vous voyez comment ces points de vue sont très contrastés entre des enseignants qui travaillent 50 heures par semaine au Brésil et des enseignants qui travaillent 10 heures par semaine en Chine, le reste du temps étant consacré au travail collectif, au travail sur les ressources, et évidemment des conditions qui sont peu comparables. Alors, juste un mot sur la France, puisque ça, vous le connaissez beaucoup plus, et pour revenir en fait sur les mêmes questions. Alors, je voudrais prendre à propos de travail collectif et de relations entre enseignants et chercheurs, les Léa, bien sûr, représentant, on peut avoir différentes représentations pour les Léa, l'IFE avec des Léa autour, ou prendre un Léa et voir tout son environnement. Finalement, la carte qu'Émilie Carozin proposera ce soir donne sans doute une vision plus forte des Léa. Et j'ai pris dans son rapport que j'ai déjà lu, que vous n'avez peut-être pas lu, déjà une phrase à propos du Léa dont j'arrive plus à voir le nom ici, mais c'est celui où il y a Lucria, je crois, et Garcia Lorca. Avec juste un petit échange, puisque les chercheurs sont interviewés, le chercheur, cette magnifique phrase que je répète, que la principale a dite, c'est vous la recherche, bon, dans 3 mois, si vous ne servez à rien, c'est dehors. Ça restera marqué dans mon esprit, ça a commencé comme ça vraiment, et un mois après, chers collègues, vous avez la chance de travailler avec une équipe, etc. Donc, il y a derrière un questionnement qui est fondamental autour de la tension entre enseignants et chercheurs. Finalement, dans un Léa, qui c'est qui cherche, qui c'est qui enseigne, qui c'est qui apprend. Et quoi ? Bon, ce sont des questions dont on pourra débattre aujourd'hui. Et les ressources, finalement, c'est la matière qui nous permet d'interroger ces questions. En France, je prendrai aussi un exemple complémentaire. C'est l'exemple de Césamat, dont on n'a pas fini de tirer les enseignements. On a discuté il y a 2 jours avec la présidente de Césamat, qui nous expliquait comment, selon elle, un collectif devait marcher, comment la critique s'accompagne de la construction, l'intérêt... Une organisation ne peut marcher que si l'intérêt pour l'autre est plus grand que l'intérêt pour soi. Enfin. Donc on a un réseau de collectifs avec des rôles très contrastés. Il y a des membres de l'association, ils sont peu nombreux, 70. Il y a beaucoup plus de gens qui travaillent dans le réseau. Il y a des utilisateurs des ressources. Est-ce que c'est un développement marginal ou un signe avant-coureur de bouleversement du métier de l'enseignant et des relations entre les enseignants? Et puis on pourrait poser exactement les mêmes questions que les questions qui ont été évoquées en Chine au Brésil. Donc ça apparaît comme étant 2 cadres intéressants pour regarder ce qui se passe du point de vue des ressources. Comment elles sont développées, comment la qualité de ces ressources a pu être améliorée. Alors, deuxième point, et je vais aller peut-être plus vite, sur des invariants critiques. Qu'est-ce qu'on peut regarder là-dedans comme invariant? Parce que la situation est très contrastée. On a vu le rapport... des rapports institutionnels très différents aux ressources. Pour faire un manuel, ça ne se passe pas pareil au Brésil et en France. Le choix des manuels, ça ne se passe pas du tout pareil. Différents rapports à la recherche. Le rapport, si on cherche le rapport entre les chercheurs et les enseignants au Brésil, on va le voir surtout au niveau national, au niveau institutionnel, dans un travail commun avec des enseignants dans des commissions. Alors qu'en Chine, c'est marqué dans les obligations professionnelles de l'enseignant. Il a à faire de la recherche sur sa propre pratique et il a à le faire avec les autres. Et différents rapports au collectif, responsabilité individuelle en France, apparemment, et responsabilité foncièrement collective en Chine. On pourrait montrer dans les modes d'évaluation des élèves, des professeurs, l'idée qu'affirmer que ce que je fais avec les autres sera toujours plus fort que ce que je ferai seul, qu'une ressource qui n'évolue plus est une ressource morte, enfin bon. Et cependant, il apparaît, il me semble, des invariants profonds, j'en vois au moins 3. Bon, le fait que le développement de ressources demande du temps, ça, c'est une banalité, mais répond toujours aux nécessités de l'activité des enseignants. On puise dans ses propres ressources, on construit d'autres à partir des problèmes professionnels que l'on rencontre. Différents rapports au collectif, certes, mais quand on cherche bien, on a fait un certain nombre d'études comparatives, mais le collectif apparaît toujours comme un ressort essentiel du travail des enseignants sur les ressources. Et troisième point, différents rapports à la recherche, mais il y a toujours un point de vue réflexif qui est au cœur du travail des enseignants sur les ressources. Et de la même façon qu'on parle d'enseignants-chercheurs dans le supérieur, on pourrait parler de professeurs à tous les niveaux, à la fois enseignants et créateur de ses propres ressources et des ressources de ses collègues, donc en professeur, enseignant et chercheur. De ce point de vue-là, on pourrait dire que l'ELEA, c'est à la fois on a des effets de révélateur, on voit vraiment ce qui se passe, puis un effet d'accélérateur, c'est-à-dire des relations institutionnalisées, le soutien qui est apporté permet un développement plus fort de ces processus. Et je voudrais illustrer ces trois aspects avec trois points. Un point historique, je vais remonter un peu loin ou beaucoup loin avec des choses que vous connaissez sans doute, en puisant dans le nouveau dictionnaire de pédagogie de Ferdinand Buisson, 1911, dans un moment assez tumultueux de l'histoire de l'enseignement, en prenant trois rubriques. Première rubrique, les bibliothèques pédagogiques, bibliothèques populaires, bibliothèques scolaires. Les bibliothèques scolaires sont celles qui sont dans les établissements, les bibliothèques pédagogiques dans la ville, le chef-lieu, uniquement pour la formation des enseignants. Et alors, on développe dans ce dictionnaire, est-ce que les bibliothèques pédagogiques sont vraiment utilisées? Et le rapport dit non, elles ne sont pas utilisées, sauf quand l'enseignant a quelque chose de nouveau à faire, par exemple quand il s'agit de faire des cours d'adultes ou des conférences, alors là, elles sont utilisées. Vraiment, quand il y a un besoin de renouveler son enseignement, le besoin de ressources utilisées à reproduire est très fort. Au niveau du travail collectif. Alors, dans le dictionnaire pédagogique, à la lettre C, vous avez une dizaine de conseils dont on voit bien le rôle structurant pour l'éducation, avec des phrases très fortes comme « l'école est une, quel que soit le nom de ses maîtres, tout enseignement est une collaboration ». Et si vous lisez le dictionnaire pédagogique sous l'angle du travail collectif, vous voyez au fondement de l'école publique en France comment cette notion est puissante. Et puis, sur professeur créateur, alors là, il y a quelque chose que j'aime bien, que je vous ai peut-être déjà dit. Il y a une rubrique sur la création des maîtres écrivains au XVIe siècle. Et donc, c'est eux seuls qui pouvaient, parce que l'écriture, c'est quelque chose de sérieux, le calcul aussi, c'est eux seuls qui avaient le droit d'apprendre à écrire. Et donc, de créer des ressources basées sur l'écriture. Les autres, les maîtres d'études, ne pouvaient faire que la lecture et donc apprendre en utilisant des ressources qui étaient déjà constituées. Et donc le texte des Zoll, à mesure que le goût de l'instruction se répandait, il devenait de plus en plus difficile aux écrivains de maintenir intact leurs privilèges. Ils ne pouvaient plus donner la chasse aux maîtres étrangers à la corporation, qu'ils appelaient les buissonniers, et petit à petit, les maîtres d'études imposent leur droit à construire eux-mêmes leurs ressources et en même temps qu'ils apprennent à lire, apprendre à écrire aussi. Alors j'ai cherché ce matin d'où venait l'appellation des maîtres buissonniers. Alors, j'ai trouvé comme explication, peut-être vous en avez une autre sur Wikipédia, que ça vient du temps où les luthériens prêchaient à l'abri de la vindicte de l'Église catholique, et donc ils prêchaient dans la campagne ou dans le désert, derrière les buissons. Alors, ce besoin de ressources apparaît, le ressort du collectif et le professeur comme auteur. Et je voudrais faire une autre petite parenthèse. Alors, on compare souvent ou on confronte deux métiers fort différents, c'est-à-dire deux métiers ou deux activités humaines, l'activité du professeur qui, lui, utilise des ressources déjà faites, qui utilise ou réutilise ce que lui-même a déjà fait, et l'activité créatrice, par exemple, du peintre. Alors, je trouve que ça m'a toujours intéressé de regarder un petit peu ceci, parce que, et là, je prends un exemple que vous connaissez sans doute, voilà un tableau de Manet, Le déjeuner sur l'herbe, que vous connaissez sans doute. Il y a une exposition qui a été faite au musée d'Orsay il y a quelques années, montrant le travail de Picasso sur le déjeuner sur l'herbe, avec un travail en plusieurs étapes. D'abord, une étude où il analyse ce tableau et il montre comment ce tableau nourrit sa propre activité. Avant de, pendant 2 ans, réaliser une série de tableaux, de copies de ce tableau, et en disant « je dois tout à Manet », en même temps « je dois tout à moi-même » parce que ce que je fais avec Manet me révèle à moi-même mes propres capacités. Il va faire toute une série de tableaux. Et on peut remonter en abîme en disant « mais le tableau de Manet, d'où il vient ?» Et Manet explique très bien qu'il a eu cette idée de tableau en utilisant 2 autres tableaux qui étaient antérieurs. Et le travail de Picasso continue avec un travail qui à la fois s'éloigne du modèle, où il revient en même temps au modèle en travaillant après, en découpant les personnages pour mieux voir le tableau, mieux voir les compositions diverses que je fais avec. Il découpe les personnages sur des petits bouts de carton et il les recompose sans cesse. Et enfin, dans un dernier tableau, 10 ans après, il se représente lui-même en train de peindre le tableau. En disant, finalement, peintre Cujat se représente avec un petit, une fausse modestie ou un faux dénigrement, dit qu'en fait, ma seule capacité, c'est de reproduire ce qui a été fait. Mais vous voyez comme pour le peintre, en fait, comme pour l'enseignant, il y a ce travail de copie et d'invention et qui se fait toujours dans les communautés. Picasso dit, je ne peins que parce que je m'inspire des autres, des communautés, on peut dire verticales, historiques, mais des communautés horizontales. Picasso développe son art dans une communauté cubiste ou surréaliste en interaction avec un ensemble d'auteurs. Donc vous voyez cette création, il est bon d'avoir en tête comme elle l'est dans l'activité humaine et elle trouve des formes particulières d'expression à l'école. Bon, donc ces invariants critiques me semblent fondamentaux. Alors, sujet de recherche et moyens d'action. J'ai posé les questions, trois questions à Laurence, qui commençait juste à travailler sur les ressources, en voulant m'inspirer d'un regard extérieur pour travailler sur les ressources des Léas, parce que j'en connais quand même un certain nombre. Peux-tu donner trois exemples de ressources des Léas qui illustrent pour toi trois questions, et à ces trois questions, donner trois pistes de réponse. Alors, elle a donné trois ressources en disant elle-même ce qu'elle voyait à travers les ressources comme objectif. Ces objectifs ne sont pas toujours évidents quand on voit une ressource. Et peut-être que les auteurs qui sont dans la salle diront « mais je ne reconnais pas mon bébé là-dedans ». Une ressource se spécialiser, faire évoluer ses pratiques grâce à des ressources nouvelles, générations, avec comme ressource produite un manuel scolaire, en fait une série de manuels qui se nourrissent et nourrissent des formations. Se remettre en question, lycée Joliot Curie de Rennes, avec une recherche qui est finie maintenant sur l'enseignement de disciplines non linguistiques, identifier d'autres pratiques d'enseignement en enseignant les mathématiques en anglais. Et enfin, une ressource sur analyser les apprentissages, donc analyser les postures épistémiques des apprenants, leur capacité à appréhender les questions complexes dans un contexte donné. Et on a un jeu épistémique, mets-toi à table. Donc j'ai regardé ces trois ressources, j'en ai regardé d'autres, et pour me poser... la question suivante, finalement, comment voit-on que c'est une ressource issue d'un Léa ? Et de façon plus générale, quels seraient les critères qu'on pourrait imaginer pour dire, ah ben tiens, ça c'est une ressource issue d'un Léa ? Ou quels sont les modèles qui pourraient, différents modèles qui pourraient inspirer les gens des Léas qui font des ressources ? En regardant ce que sont les critères, par exemple, dans ces AMAT ou au Brésil, dans la grille d'évaluation des manuels didactiques, ou en Chine, comme résultat des lesson studies, ou des groupes de recherche sur l'enseignement. Et alors, en regardant tout ça, en ajoutant, puis les travaux qui ont été menés dans le domaine, je trouve ceci. Est-ce qu'on trouve dans les ressources des auteurs et un ensemble de métadonnées qui permettent de repérer ces ressources dans un champ plus vaste ? La ressource qui est créée par un Léa, est-ce qu'elle est revendiquée par l'établissement ? Est-ce qu'on voit sur le site de l'établissement, on a fait des ressources là ? Sur le site de l'équipe de recherche, est-ce que telle équipe de recherche, sur un Léa, dit, regardez, on a ça qu'on a fait avec des enseignants. Dans les institutions, est-ce qu'on va sur le site du DRDIE, on voit l'ensemble des ressources créées par les Léa ? Est-ce qu'on voit le statut de la ressource ? Est-ce que c'est une ressource en chantier, en phase de test, en phase de généralisation ? Est-ce qu'il y a une trace de la question initiale ? On a une ressource, mais elle répond à quoi ? Est-ce qu'il y a la trace de la collaboration qui a soutenu le processus de conception et des différents inputs des chercheurs, des enseignants ? Est-ce qu'il y a une trace des expérimentations ? Qu'est-ce que les expérimentations ont permis de donner comme valeur ajoutée ? Est-ce que les utilisateurs potentiels et les contextes d'usage sont précisés ? Est-ce qu'on a des éléments de diffusion ? Parce qu'une ressource est faite, on souhaite qu'elle soit diffusée dans les Léa. Est-ce qu'on sait si ça l'a été ? Ou dans l'écosystème autour du Léa ou dans le réseau des Léa ? Est-ce qu'il y a des retours d'usage prévus ? Est-ce que la ressource dit, s'il vous plaît, on vous propose cette ressource, mais on vous demande une chose, comme le fait Césamat, si vous l'utilisez et si vous voulez la critiquer, dites-nous en quoi on peut l'améliorer. Est-ce que c'est accompagné de méta-ressources, c'est-à-dire par exemple de l'historique de la conception, j'ai dit, ou de modèles de conception ? Donc finalement, à travers toutes les ressources qu'on a faites, il y a ces éléments de structure qui nous semblent importants. Ou une charte de conception, si vous allez sur le sud de Césamat, vous voyez, là, toutes nos ressources sont associées à une charte. Bon, finalement, est-ce que tout ça pourrait aller vers un label Léa, on pourrait dire, qui soit quelque chose d'évolutif, mais qui permette qu'il soit une image, à travers l'image des ressources conçues, l'image des communautés qu'il y a derrière. Bon, alors, Brigitte a parlé tout à l'heure du projet REVEA. Au passé, non, c'est un projet qui a commencé l'année dernière, qui dure 4 ans, qui est piloté par Éric Brouillard, et on est deux à suivre les aspects collectifs dans ce projet. Gisèle Godet qui suit les aspects collectifs à l'intérieur des établissements, enfin qui pilote cet aspect, et moi qui pilote l'aspect des aspects collectifs inter-établissements. On a fait il y a 2 jours un séminaire sur ces aspects collectifs qui était fort intéressant. Il y a des liens impliqués dans le projet REVEA. Alors moi, je voudrais leur poser la question. finalement, le fait qu'il y ait des Léas qui suivent ce projet, ça a quelles conséquences pour le réseau des Léas ? Et quelles conséquences pour le projet Réveil ? C'est-à-dire comment les deux projets se nourrissent les uns les autres ? Donc ça, c'est une question qui est devant nous, dans les Léas comme dans Réveil. Il y aura des interactions très vives, vous l'avez compris, avec le projet brésilien et le projet chinois. Donc là, c'est des choses en cours. Mais ce qui m'intéresse à travers ce projet, je finirai là-dessus, c'est que dans le projet Réveil, on ne veut pas seulement regarder les ressources finies, comme une fois réalisées, comme on peut le voir sur le site d'Eléa, mais on veut aussi voir le processus de conception des ressources. Et pas seulement le voir, mais relever des données qui permettent à d'autres de le voir. Alors dans le projet Réveil, on a travaillé sur des choses comme ceci, c'est-à-dire en identifiant le cycle d'une leçon. Dans le cycle d'une leçon, il y a le moment de la préparation, pas où le prof dit « tiens, j'ai fait ça pour préparer », mais le moment d'une préparation effective, où on regarde le professeur préparer vraiment une leçon nouvelle. Puis le moment où il fait la leçon, le moment où il regarde l'effet de la leçon, par exemple, sur les travaux réalisés par les élèves sur cette leçon, et puis un moment, disons, de retour réflexif. Ça, c'est pour un enseignant. Est-ce que dans les Léa, on peut imaginer une façon de capter le processus de conception collective, avec des moments clés qu'on nous documente pour dire voilà comment ça s'est passé, et on vous montre pas seulement le résultat, mais on vous montre le processus qui a amené à ça. Donc plus fort qu'une description, des éléments de l'histoire elle-même. Bon, ça finalement, c'est ce qu'on a pu faire au Brésil, mais au Brésil, je suis resté 2 mois avec un groupe d'enseignants. J'ai eu la chance de travailler avec un groupe d'enseignants et d'étudiants sur des données. Donc on a travaillé avec des professeurs en amont de leçons, un travail collectif. On est allé voir les professeurs travaillant dans la classe, on a discuté avec les élèves, avec les professeurs, du résultat de la leçon. On a discuté avec les professeurs sur l'ensemble des données qu'on a récoltées. Et enfin, dans un séminaire, on a rediscuté tous ensemble de tout le processus. Donc ces choses, pour les avoir vécues de façon intense, que pendant 2 mois, on n'a fait que ça sur plusieurs exemples, ça me semble extrêmement riche. Et les Léa, ça me semble vraiment un très bon cadre pour faire ça. Parce que finalement, pour revenir aux questions qu'on voulait poser. Bon, vous avez vu qu'à travers ce qu'on a dit, c'est simplement un ensemble d'éclairages, un ensemble de promesses. Disons, on met en place des cadres pour traiter ça de façon sérieuse pendant quelques années. Et en créant ceci, on traite en même temps d'autres questions qui sont autour. Et puis, on va essayer de préciser chaque question pour être en mesure de répondre précisément sur des questions précises en essayant d'éclairer au mieux tout ce qui est autour. Et ça, on a parlé de Léa comme laboratoire vivant. C'est vraiment quelque chose qui permet de voir à petite échelle, à moyenne échelle, à grande échelle, ce qui se passe, comme laboratoire vivant. Et on a aussi parlé de Léa comme grand instrument. Et là, je dirais, c'est autre chose encore. Parce que les Léa, comme grand instrument, ce n'est pas seulement un lieu où on regarde des choses, mais c'est un lieu qui a une responsabilité particulière. Et cette responsabilité particulière, dans un moment qui est quand même très marqué, vous avez bien compris que l'éducation va être un enjeu social, politique, pendant les 2 ans qui viennent, un enjeu assez fort. Il me semble qu'il y a un enjeu fort pour un grand instrument comme les Léa, grand instrument de l'IFE, mais des équipes de recherche, pour montrer le potentiel des Léa pour construire vraiment des ressources émancipatrices. Voilà. Merci. Alors, il y a des références, et puis on aura le temps de discuter aujourd'hui.